Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église. Bienvenue à ceux qui nous visitent, peut-être de l'extérieur. Il y a des gens ce matin de Toronto, en tout cas le premier service, et peut-être que le deuxième service, vous êtes de l'extérieur, vous venez visiter la parenté, la famille. C'est le temps de Noël. Alors, c'est le temps des retrouvailles, de voir la famille. Moi-même, de notre côté, on va recevoir Julie et sa tribu. Ma fille qui s'en vient, là, Joël devrait revenir de l'Ukraine. Ils ont finalement adopté deux enfants. Donc, elle vient avec ses 9 enfants à la maison. Ça devient de plus en plus compliqué de savoir où est-ce qu'on les couche. En tout cas, je pense qu'on va mettre une tente dans le cours, puis on va envoyer... Enfin, on vous souhaite vraiment de passer des belles fêtes. C'est vraiment agréable de se retrouver en famille. Vous savez, dans le temps de Noël, on aime regarder des passages qui parlent de la naissance de Jésus-Christ. Parce que Noël, dans le fond, c'est ça, c'est ce qu'on veut célébrer. On veut célébrer la venue de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Alors que Dieu a quitté le ciel pour quitter sa demeure, comme on vient de chanter, et venir ici comme un humble serviteur. Et il a passé sa vie ici comme homme, et finalement, il est mort sur la croix. Plusieurs passages en parlent. D'ailleurs, plusieurs passages dans l'Ancien Testament prophétisent la venue du Messie, du Sauveur de Jésus-Christ. Plusieurs livres de l'Ancien Testament, même vont donner des prophéties, des prédictions, des centaines d'années avant. C'est vraiment une belle évidence, vraiment de l'inspiration des Écritures. Un de ces livres-là, c'est le livre d'Ésaïe. Incroyable le nombre de références dans le livre d'Ésaïe, où on va parler de ce Sauveur qui vient. D'ailleurs, le livre d'Ésaïe est celui qui parle le plus souvent de ce Sauveur qui vient, de tous les autres livres de la Bible, à part du livre des psaumes. Et on reçoit plusieurs informations, on nous donne plusieurs choses à l'égard de ce Sauveur qui vient, que le Nouveau Testament nous apprend que c'est Jésus-Christ. Mais déjà dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant, Ésaïe va donner une douzaine de noms pour décrire ce Messie. Ça va parler déjà dans le livre d'Ésaïe de sa naissance miraculeuse. On voit cela déjà. On va parler de son royaume, le royaume de ce Sauveur qui s'en vient. On va parler, vous connaissez ces chapitres classiques, chapitres 52-53 dans Ésaïe, où ça parle de ses souffrances, de sa résurrection. Et les derniers chapitres, chapitre 40 jusqu'à 66 dans Ésaïe, ça parle de la grandeur de ce Sauveur qui vient. Donc, on parle à l'autre extrême de son humilité, en parlant de ce serviteur souffrant dans Ésaïe 52-53. Et ça termine avec les derniers chapitres, 40 à 66, parlant de la grandeur de ce Sauveur. Et ce qu'on va faire ce matin, on va s'arrêter sur un aspect qu'on ne parle pas souvent à l'intérieur du temps de Noël, alors que c'est tellement important de le faire. C'est l'une des prophéties qui est beaucoup plus importante qu'on pourrait le croire et qui va nous aider à comprendre vraiment un autre aspect sur la richesse de Noël. Et ça va se trouver dans Ésaïe 35. Alors, c'est pas un gros chapitre, on va le lire au complet, Ésaïe chapitre 35. Juste une dizaine de versets, en fait. Alors, Ésaïe 35. Juste avant, on va prier, parce qu'on veut prier pour... Monsieur Bacon, je ne sais pas si vous connaissez la famille Bacon. Monsieur Bacon qui a commencé des traitements là, cette semaine pour un cancer. Et il ne filait pas bien ce matin, on nous a annoncé ça. Il ne file pas bien, les réactions évidemment à tout le traitement. On pense aussi à Monsieur et Madame Lord et d'autres personnes qui sont malades dans l'Église. On veut prier pour eux. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette Église et merci pour tout ce qui a été fait en fin de semaine. Je pense à tous les paniers de Noël qui ont été distribués hier, plusieurs paniers de Noël. Merci pour ce beau ministère et tous ceux qui ont travaillé tellement fort hier. Ça a commencé tôt le matin et ça finit tard dans l'après-midi. Merci pour ceux qui se sont dévoués pour aller livrer ceux qui ont reçu, qui ont contribué, et ceux qui ont tout rassemblé, tout ça. Et, Seigneur, vraiment une belle famille. C'est une belle œuvre, Seigneur, et nous sommes contents. Nous te prions pour ceux qui ont reçu ces paniers. Nous voulons être une bénédiction pour les gens de la communauté. on te prie, Seigneur, que peut-être même quelques-uns parmi eux puissent être attirés à l'Évangile à travers cette belle odeur de cette belle œuvre qui a été accomplie hier. Merci pour les frères et sœurs qui se sont investis hier. On te prie pour ceux qui sont malades dans l'Église. On pense à M. Bacon. Que tu puisses mettre ta bonne main sur lui et le remettre, Seigneur, lui donner de cette grâce de pouvoir passer à travers ces traitements qui sont difficiles. Et on te prie pour M. et Mme Lord, Seigneur. Veuille mettre ta main sur eux et les encourager, les fortifier, Seigneur. Et on prie pour tous ceux qui sont malades. Je pense à cette sœur qui me demandait ce matin de prier pour elle. On te prie que tu puisses lui donner la paix, que tu puisses l'encourager. On te prie pour les familles de l'Église, de nombreux besoins dans chaque famille, avec les enfants. On te prie, Seigneur, que ton esprit puisse agir dans nos familles. Nous voulons avoir des familles qui t'honorent, Seigneur, à cause de tout ce que tu as fait pour nous. Je te remercie, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Ésaïe 35, verset 1. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire d'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux flagellants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera « chemin de la sainteté ». Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion. Aucune bête sauvage ne le gravira. Aucun ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Il connaîtra la gaieté et la joie. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Une belle image. Une belle image, en fait, une belle image du retour du Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. Le thème qui va ressortir ici, qui est bien important de souligner, c'est un thème qui est important dans la Bible. C'est un thème qu'on n'entend pas beaucoup parler, qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est ce thème du retour à la maison. D'ailleurs, le mot qu'on va employer ici, « ils reviendront », c'est le mot qu'on se servait pour l'image de ceux qui quittaient l'exil. Lorsque les Juifs avaient été en exil, qu'ils avaient été libérés, ils pouvaient retourner en Israël dans leur demeure. Et c'est l'image pour dire que voici, nous les enfants de Dieu, nous sommes en ce moment, et on va le voir un peu plus loin, on va élaborer un peu plus ça, mais cette idée, c'est que nous sommes dans un perpétuel exil en ce moment. On n'est pas encore chez nous. Notre demeure est vraiment au ciel. Et si le Seigneur est venu à Noël, le premier Noël, il est venu ici sur terre, c'était justement pour nous redonner cette demeure. Et on va le voir, ça. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra à nouveau, on va avoir de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et ce que nous avons dans Ésaïe 35 est donc une description de cette nouvelle terre, de ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. C'est tout à fait glorieux. On voit verset 1 et verset 2, « Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban, regardez le site, les villes dont on va parler. C'est des sites, c'est des endroits tout à fait magnifiques. Il était reconnu pour ça. Il dit, la gloire du Liban lui sera donnée. De même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. La gloire, imaginez, la gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Ce qu'Isaïe est en train de nous dire, c'est qu'un jour, lorsque Jésus va revenir dans sa gloire sera si éclatante et si puissante qu'elle aura un impact sur la nature. Toute la nature sera renouvelée, transformée, elle va changer, complètement changer. La nature, la terre, la nature va changer. Quand il est dit que le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse, cela signifie qu'il n'y aura plus de désert. On parle d'un grand changement, un bouleversement. C'est l'image du Liban, le Carmel, le Saron. Très approprié parce qu'il était très reconnu à l'époque, très reconnu pour être magnifique. Le Liban, par exemple, était reconnu pour ses sols fertiles. Le Carmel représentait l'ordre, le Saron, paysage tout à fait magnifique. Et lorsque la gloire du Seigneur se révélera, le sol sera parfaitement fertile. Le paysage sera d'une beauté tout à fait magnifique. Il n'y aura plus de désert. Vous aurez un monde renouvelé. Le verset 6 dit ceci, dans Ésaïe 11, avant, on ajoute un petit détail, mais ça décrit cette splendeur de ce nouveau monde qu'on va connaître un jour, au retour de Jésus-Christ. Ça dit, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau. Le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble. Et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'assumera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. Imaginez, on parle ici d'un nouveau monde vraiment différent. Là. Et comment ça va arriver? Il vient le verset 3 dans Ésaïe 35, nous sommes en train de lire, il dit ceci, « Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux flagellants. » Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. En d'autres mots, ce qui est dit, c'est que la raison pour laquelle ces choses vont arriver, c'est que Dieu va arriver. Dieu sera là. Il viendra sur la terre. Maintenant, certains diront, mais est-ce que Dieu n'est pas déjà sur la terre? Oui, il l'est, mais en ce moment, on ne voit pas sa gloire. Il est invisible. On ne voit pas sa gloire et on peut le désobéir, alors qu'à ce moment-là, sa gloire sera visible. On sera devant sa gloire et on ne pourra pas le résister. Tout mal, toute corruption va disparaître. Et verset 5 dit ceci, non seulement que la nature va avoir un impact, elle sera impactée, non seulement la nature va complètement renouveler, cette nouvelle vie va changer, il va avoir une nouvelle vie, une vigueur, même dans le désert, la terre va changer, le monde va changer. Mais ça a même un impact sur le peuple de Dieu. Alors que le verset 5 dit ceci, « Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. » La même gloire éclatante et puissante de Dieu qui produira une nouvelle vie à la nature va changer aussi le peuple. L'aveuglement n'existera plus. Il n'y aura plus de maladie, plus de vieillissement. La mort n'existera plus. Ça va disparaître. Et verset 10 dit ceci, « Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. » Vous voyez ce mot-là ici, « revenir », c'est le mot qu'on emploie pour revenir de l'exil. En d'autres mots, « revenir à la maison ». Et c'est une belle description magnifique du retour de Jésus-Christ où enfin on va pouvoir entrer à la maison. C'est cette image qu'on a ici. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Reviendront à la maison, dans le fond. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Maintenant, ça, c'est un grand thème de la Bible. Il y a un grand thème de la Bible ici, cette idée de l'exil et le retour à la maison. Quand on regarde l'histoire d'Israël, par exemple, on voit ce thème revenir plus d'une fois. Ça va revenir souvent. L'exil et le retour. L'exil et le retour à la maison. Par exemple, Israël était en exil en Égypte. Et ils ont été dirigés par Moïse. Dieu les a sauvés de l'esclavage en Égypte pour les emmener à travers le désert, pour les conduire à la terre promise. Mais plus tard encore, on voit Israël encore en exil. Pendant plus de 70 ans, ils seront expulsés de leur terre, emmenés à Babylone, et pendant ça c'est presque 1000 kilomètres, pendant 170 ans, sont en dehors de leur demeure, sont encore en exil et sont revenus. Mais encore là, même quand ils sont revenus, ils n'ont jamais vraiment été chez eux. Parce que même quand ils sont revenus, à l'époque du Nouveau Testament, lorsque Jésus arrive, les Juifs parlaient comme s'ils étaient encore en exil. Ils se sentaient comme des esclaves encore. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'Empire romain. Alors même s'ils étaient dans leur territoire, dans le fond, ce n'était pas leur territoire. Ils n'étaient pas vraiment à l'aise, pas vraiment chez eux, parce que c'était les Romains qui contrôlaient tout. C'était l'Empire qui contrôlait vraiment tout. Donc, ils ont toujours été comme en exil. Alors, si on recule et on regarde la Bible d'un bout à l'autre, on réalise que l'histoire d'Israël, en fait, est un peu une version réduite de l'histoire de l'humanité. Au commencement de la Bible, dans la Genèse, on voit Adam et Ève. Ça, c'est la race humaine. Et qu'est-ce qui arrive? Ils perdent leur demeure, sont expulsés du Jardin d'Éden. Ils ont été créés pour vivre dans le Jardin d'Éden. Ils ont été créés pour vivre dans le paradis. Le monde était dans le paradis. Mais parce qu'on s'est détourné de Dieu, on a été expulsé en dehors du jardin. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à la fin de la Bible, on voit le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, on voit que Dieu qui va refaire le Jardin d'Éden. En fait, Dieu recrée le Jardin d'Éden, la ville sainte de Dieu, et elle descend du ciel. Alors, quand on regarde d'un bout à l'autre de la Bible, on commence à comprendre que chaque être humain, en fait, se trouve présentement dans un exil. C'est un exil spirituel. On est des sans-abri. On n'est pas vraiment chez nous. Tu peux avoir une belle maison, tu peux être confortable et tout ça, mais spirituellement, tu n'as pas été fait pour ce monde-ci qui est corrompu, rebelle à Dieu. On n'est pas encore chez nous. Et c'est vraiment intéressant, il y a un philosophe allemand, Martin Heidegger, qui a dit ceci, a fait une observation. Il dit, les êtres humains vivent, et là, il dit même les gens modernes, là, il dit, les êtres humains vivent dans un monde qui ne répond pas vraiment à leurs désirs les plus profonds. Nous nous sentons tous comme des sans-abri. C'est intéressant qu'il dit ça. Nous avons l'impression que ce monde ne nous fait pas très bien. Nous ne sommes pas à notre place. Nous sommes isolés. Pourquoi? Mais la réponse se trouve dans le psaume 90 qui dit ceci. Il dit, Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. C'est vraiment intéressant comment on s'aperçoit ici, ce que ça dit, c'est que notre demeure est en Dieu. La vraie demeure se trouve en Dieu. Et ce que la Bible, ce que ça laisse entendre, c'est qu'on a été créé pour Dieu. Nous avons été créés pour servir Dieu, pour l'aimer, pour nous plaire en lui, et d'être saisis par sa beauté au point que rien qu'on ne puisse pas faire pour le servir, tellement qu'on est touché et saisi par sa beauté. Et c'est la raison pour laquelle on a été créé. Et si on n'est pas là, si on ne se sent pas comme ça, on ne se sentira jamais chez nous. Si une chose devient plus importante que Dieu, si une chose occupe une place plus importante que Dieu, on ne sera jamais chez nous, jamais pleinement satisfait. Ce n'est pas notre demeure. Même des bonnes choses, ça peut être des bonnes choses, ça peut être la carrière, l'argent, ça peut être le succès, mais si ça devient la première place dans ma vie, même l'amour, les fréquentations, ça prend la première place dans ma vie, c'est pas ma demeure, j'ai pas été fait pour m'épanouir 100% dans ces choses-là. Rien n'arrivera à combler cet espace dans mon cœur qui est pour Dieu. Et c'est ça que le passage nous livre. Le livre de la Genèse nous dit que nous avons été faits pour le paradis. On a été faits pour le Jardin d'Éden. On a été créés pour ça. Mais parce qu'on a décidé d'être nos propres maîtres, faire à notre tête, faire à notre volonté, on a perdu notre demeure. Nous avons perdu cette demeure, nous dit la Bible. Et ce monde n'est plus notre demeure. Ce monde a changé. On n'a pas été créé pour un monde où va se trouver, où se trouve la mort, le vieillissement, la maladie. Et depuis la chute, nous sommes dans un exil. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque page de l'Ancien Testament recèle de promesses qui parlent d'un Messie qui vient, qui va nous ramener chez nous, à la maison. Et le Nouveau Testament dit que Jésus est ce Messie. Et Jésus vient deux fois. Premièrement, il est venu une première fois, et c'est ce qu'on veut célébrer cette semaine avec Noël. On célèbre sa première venue, la naissance de Jésus-Christ, lorsqu'il est venu ici sur terre, il y a 2000 ans. Et pourquoi il est venu? Il est justement venu pour nous donner une demeure. On a perdu notre demeure. Alors, Jésus a quitté sa demeure, cette demeure qu'il avait, cette intimité, cette communion parfaite qu'il avait avec Dieu dans le ciel. Il a quitté cela pour venir ici. Il est devenu un sans-abri. Regardez sa naissance. Regardez comment ça a eu lieu. Il n'est même pas né dans une demeure. Il est né dans une étable, une place réservée pour des animaux. Et sa naissance, dans le fond, décrit le reste de sa vie. Jésus lui-même va parler un jour qu'il n'y a pas de place pour reposer sa tête. Par exemple, dans Luc 9, 58, il dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Voyez-vous, Jésus a abandonné sa demeure. Il est devenu un itinérant, un sans-abri, afin de te donner une demeure. Et ça, c'est un des grands thèmes des Écritures. Nous sommes en exil, et le fait que Jésus s'est exilé, a quitté sa demeure, c'était justement qu'on puisse aller à la maison. Un grand thème des Écritures. Et à la croix, c'est l'ultime rejet, l'ultime expulsion, alors qu'il va dire à Dieu, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le plus grand abandon, le plus grand rejet, c'est l'ultime exil, expulsé de la demeure céleste, rejeté par Dieu. Voyez-vous, à la fête de Yom Kippour, les Juifs avaient plusieurs fêtes dans l'Ancien Testament, on voit ça dans Lévitique, sept fêtes juives, et les Juifs devaient célébrer. L'une d'elles, c'est le Yom Kippour, et ce que les Juifs faisaient, dans le fond, c'était un temps de repentance où les Juifs pouvaient, c'était un temps où on devait confesser nos fautes, nos péchés, tout ça, et on prenait un bouc, et ce que les gens faisaient, ils prenaient leurs mains, puis imposaient leurs mains sur la tête du bouc, et c'était symbolique. Et là, on confessait nos fautes, nos péchés devant Dieu, et ce que ça représentait, c'est que tous nos péchés étaient transférés. Notre culpabilité, nos péchés, tout cela était transféré sur la tête de l'animal. Et ce qu'on faisait avec l'animal après, il était expulsé, il était envoyé en dehors de la ville. Envoyé. Et cela représente, évidemment, nos péchés qui sont envoyés, mais c'est ce que Jésus a fait. Alors que Jésus a été crucifié en dehors, il a pris sur lui nos péchés. Nos péchés ont été transférés sur ses épaules, ce qu'on appelle de l'imputation. Et sa justice nous a été transférée. Ça, c'est l'autre imputation. Jésus est venu sur terre, il est devenu un sans-abri, et à la fin de sa vie, il s'est rendu jusqu'à la croix. Et sur la croix, il a été rejeté, crucifié, en dehors des portes. Il est né dehors, dans une étable, pas dans une maison. Puis là, il est crucifié, en dehors de la communauté. Jésus a quitté sa suprême demeure, le ciel, tout quitté cela. Il a connu l'isolement, la solitude extrême, afin qu'on puisse recevoir l'amour de Dieu, qu'on ne perdra jamais. Alors, parce que Dieu est venu sur la terre, afin de satisfaire sa propre justice et de prendre sur lui ce qu'on méritait. L'histoire de Noël fait toute la différence quand on pense que Dieu est devenu un sans-abri. Pensez-y, là, un itinérant, afin de nous ramener à la maison. Sinon, Noël n'a aucun sens. Par contre, Noël prend tout son sens lorsqu'on pense à ce que Dieu a fait pour nous autres. Et qu'est-ce que ça implique, ça? Et premièrement, Noël nous montre que Jésus est le seul chemin, la seule façon d'avoir accès à cette demeure. Parce que nous lisons dans, au verset 8, toujours dans Ésaïe 35, versets 8 et 10, ça parle d'un chemin, ça parle d'une route qui va se trouver dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle terre. Ça parle d'une nouvelle route. Il y a une route qui a été construite. Il va y avoir une route, là. Et on va marcher sur cette route-là. Et elle a un nom. Cette route-là a un nom. Ça dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul n'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Alors, ça va être une route dans ce nouveau monde, une route qui est spécialement réservée pour les enfants de Dieu. Seuls les enfants de Dieu pourront marcher dans ce nouveau monde, ce monde régénéré, cette nouvelle terre. Et le verset 10 dit que cette route s'appelle la voie sainte. Dans les anciennes villes de l'Antiquité, on construisait parfois des routes exclusivement réservées pour des rois ou des prêtres. Seuls les rois pouvaient accéder à ces routes-là. Et ce que Dieu est en train de dire, voici comment je vais traiter mes enfants. Je prépare une route, ce sera la route sainte, la voie sainte. Et c'est seuls mes enfants, les enfants de Dieu, pourront marcher sur cette route-là. En d'autres mots, tu as besoin absolument de Jésus-Christ comme sauveur pour faire partie de cette demeure, pour retrouver cette demeure-là pour laquelle tu as été créé. C'est ce jardin d'Éden, ce monde qui est transformé, changé en jardin d'Éden. Mais on n'aura pas accès à ce monde. Tu n'auras même pas le droit de marcher sur cette route si tes péchés ne sont pas couverts par Jésus-Christ. Lorsque Jésus va venir, nous serons tous invités, les enfants de Dieu, à prendre cette route et à jouir finalement de ce jardin glorieux. Quelle splendeur! On veut se réjouir. On veut répandre cette bonne nouvelle. C'est une belle occasion aussi dans le temps de Noël de pouvoir répandre cette bonne nouvelle. C'est un moment de se réjouir. Noël, c'est le grand Dieu. C'est Jésus qui est devenu un sans-abri afin que ce monde devienne une demeure, un foyer. Et à la fin des temps, le monde va le devenir. Ça va être les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Regardez les détails. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle va se couvrir de fleurs, exprimer sa joie par des chants d'allégresse, des cris de triomphe. Ça va être nous autres, ça. C'est le monde aussi. La nature qui change. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Imaginez, le Seigneur va transformer la terre en jardin d'Éden. Le Liban, le Carmel et le Saron, les endroits les plus magnifiques, les plus beaux, les plus fructueux du pays à l'époque. Mais on nous dit ici qu'au retour de Jésus-Christ, le désert deviendra plus beau et plus fructueux que ces trois endroits ensemble. Imaginez, ça c'est le désert. Ça va être plus beau que l'endroit le plus magnifique dans le monde. Et tout ça à cause de Jésus-Christ, la transformation de ce nouveau monde. Nous serons dans un jardin de gloire. Verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, il sera pour eux seuls. On aura accès, et c'est vraiment intéressant parce que c'est très pertinent, surtout pour les gens d'Ésaïe à l'époque. Une invasion assyrienne avait détruit les routes et c'était très insécure. Surtout d'ailleurs, ça se trouve au chapitre 35, c'est le passage qu'on est en train de lire. Belle promesse que Dieu donne à travers le prophète Ésaïe. Mais chapitre 36, 37, les Assyriens arrivent et ils ont peur. Et Dieu va les délivrer de façon miraculeuse, incroyable, alors que c'était la plus grande puissance mondiale, les Assyriens. D'ailleurs, les archéologues ont même découvert une description sur un gros mur du roi d'Assyrie qui décrivait ses exploits et ses victoires alors qu'il s'en venait tranquillement vers Jérusalem. Puis il a été défait par miracle. Un ange est arrivé, mon ami, frappé. Et ça a été un miracle tout à fait extraordinaire. Si bien que les archéologues ont réalisé que l'histoire n'est pas finie. Ils n'ont jamais fini. Le roi n'a jamais fini de décrire. Il ne s'est jamais rendu à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on lit dans l'histoire quelques chapitres après, que Dieu a fait arrêter ça, là. Alors que ça allait contre. C'était pas logique, parce qu'ils n'avaient pas l'armée, les Juifs n'avaient absolument pas l'armée pour se défendre contre les Assyriens. Plus grande puissance mondiale. Et Dieu est intervenu. Et Dieu est en train de leur dire, ça c'est juste, c'est rien à comparer de ce que je vous prépare. C'est rien à comparer de ce jardin d'Éden. Votre vraie maison n'est pas ici. Je vous prépare une demeure encore plus glorieuse. Et c'est le jardin d'Éden, ce nouveau monde qui va changer. La nouvelle terre, les nouveaux cieux. Ça va être glorieux. L'avenir, c'est notre ami. Lorsque le Seigneur Jésus est notre sauveur. Vous savez, une des choses qu'on veut dans notre vie, c'est d'être heureux. Hein? Tout le monde veut être heureux. Tout le monde. Là, ça va être les temps des souhaits. Là. On va se souhaiter, je te souhaite du bonheur, beaucoup de bonheur. On cherche ça, hein? on veut être heureux. Et le Seigneur nous promet ici qu'on va être heureux pour l'éternité. Verset 10 dit, « Une joie éternelle couronnera leur tête. » Ça parle des enfants de Dieu, ça parle de nous autres. « L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements vont disparaître. » Dieu nous dit, « Fais-moi confiance et suis-moi. Suis-moi, fais-moi confiance. » Et peut-être que c'est difficile aujourd'hui dans le contexte où tu te trouves, peut-être. Mais fais-moi confiance. De la même manière qu'il donnait le message aux Israélites qui étaient sous la menace des Assyriens, « Fais-moi confiance. Colle-toi à moi. » Oui, des fois, tu as des choix difficiles à faire dans la vie. Mais fais-les, fais ces choix-là. Prends ces bonnes décisions pour m'honorer et tu vas voir, tu vas être béni. Je te prépare quelque chose de tout à fait glorieux. Ça vaut la peine, tous les sacrifices qu'on peut faire. Et la raison, souvent, qu'on trouve ça difficile, c'est qu'on ne se laisse pas assez prendre par la beauté de l'œuvre de Dieu. Et c'est là, parfois, c'est de voir tout ce que le Seigneur Jésus a accompli. Ça a commencé avec cette belle histoire de Noël. Et verset 2 dit, « Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » Et à la lumière de ce message, Dieu est en train de dire, « Il y a des gens autour de nous qui avons besoin d'être encouragés. Il y a des gens en ce moment qui trouvent des temps difficiles. » Et c'est pour ça que nous lisons verset 3. Regardez ces promesses que je vous donne, ce nouveau monde qui est meilleur, où il n'y aura pas de mal, pas de souffrance, pas rien. Allez dire à ceux qui souffrent en ce moment que je prépare une place. Ça va être glorieux. Et c'est pour ça qu'on lit, ils verront la gloire d'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors prenons courage, encourageons ceux qui souffrent, répandons cette bonne nouvelle, le vrai sens de Noël, et réjouissons-nous pendant le temps des fêtes. Un bon moment. Et glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il est venu ici, il a quitté sa demeure. Il y a une belle demeure qui nous attend. Le jardin nous attend. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour Noël. Noël qui nous rappelle que Jésus a tout quitté, devenu un sans-abri, sans demeure, afin que nous puissions avoir une belle demeure au ciel. Nous pensons à cette parole de Jésus qui dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. » Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ne vous inquiétez pas. Seigneur, nous nous réjouissons en toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen.